Le Grand Charivari, Pascal Seyss.
Madame, monsieur, bonjour, belle journée avec Musique 3 et jusqu'à 11h, nos chroniqueurs vous proposent leur coup de cœur de la semaine. Une semaine malheureusement sans polairement, mais le dictionnaire Amoureux du Liban vous sera proposé par Nicole Debar qui a rencontré son auteur Alexandre Nadjar sur la scène des arts plastiques. Une exposition d'un penseur de ville, penseur avec un A, Emmanuel Bayon. C'est en cours à la Médiatine de Woluwe-Saint-Lambert, est à voir encore ce week-end. Emmanuel Bayon, un jeune artiste français, à découvrir par ailleurs dans une monographie qui lui est consacrée et dont vous parlera Pascal Goffaut. Enfin, du côté de la littérature, le coup de cœur de Caroline Lamarche est consacré cette semaine à un roman congolais, Tram 83 de Fiston Mwanza Mujila, publié aux éditions Métellier. Aimerait-il être un autre? Rêve-t-il d'être Balzac ou bien Yasser Arafat? Ou comme Duchamp, Rosset la vie, voudrait-il être James Ensor? Ou une femme peut-être, comme Frida Kahlo? Qui est-il? Que montre-t-il de l'histoire, de l'identité, de la mémoire, de l'art et des espaces urbains? Réponse avec Emilio Lopez Manchero, bonjour. Vous exposez parfois nu, place Sainte-Catherine, rassurez-vous, heureusement, pour le moment il fait froid, mais vous vous exposez à l'intérieur sur les 6 messes de la centrale électrique et c'est encore jusqu'au 29 mars. C'est une rétrospective qui réunit différents aspects de votre travail. Merci donc d'être venu nous rendre visite et puis de nous permettre d'explorer avec vous votre grammaire plastique à travers la vidéo, la peinture, la photographie, les installations et puis de façon plus rudimentaire aussi avec un cri qui aurait pu être sauvage s'il n'était pas d'abord lui aussi un code culturel. Mais avant d'aborder ceci de très sérieux, il y a un questionnaire. C'est notre rituel identitaire à nous dans cette émission. Emilio Lopez Manchero, quel est le grand charivari de votre vie?
Alors le grand charivari, alors si je comprends bien, ou c'est comme ça que je l'interprète, il s'agit d'une tintamarre qu'on fait lors des mariages dépareillés. Je crois que toute ma vie professionnelle est un charivari incessant, mais qui a un certain ordre. Et je dirais qu'il y a des interventions urbaines que j'ai faites qui sont des sortes de charivari à la base. Justement, on parlait d'un cri. Il s'agit du cri de Tarzan. Donc, Jan Hout, le commissaire et le directeur du musée de Gand à l'époque, avait invité les artistes à faire un projet sur un coin de la ville. Et j'ai cherché un coin dans la ville. Et je n'ai pas trouvé un coin plus intéressant qu'un autre. Alors j'ai pris mes deux mains, c'est ce qui m'arrive souvent quand je suis perdu dans l'échelle d'une ville, et j'ai fait un coin. Et puis je l'ai ouvert. Et puis ça faisait une sorte de coin ouvert. Et ça m'a il y a l'image de Tarzan qui m'est apparue. Et pas n'importe lequel, le Tarzan de Johnny Weissmuller. Et donc j'ai placé sur 8 tours, 8 points hauts de la ville, à raison de 8 fois par jour, durant 3 mois, ce cri de Tarzan à travers toute la ville. C'est un des plus grands charivaris que j'ai fait.
Voilà, un cri que l'on peut entendre d'ailleurs toutes les heures et demie actuellement sur la place Sainte-Catherine, mais on en parlera.
Oui.
À quoi bon l'art et la culture, Emilio Lopez Manchero?
Alors, ma mère, me voyant toujours tellement obsédé par l'art, me disait, mais tu sais, pendant la guerre, la première chose qui tombe, c'est l'art, on n'en a pas besoin. Et alors, je lui ai simplement répondu, oui, mais un monde sans art, est-ce que tu es capable d'y vivre? Et elle ne m'a plus répondu. Et donc, voilà, c'est un peu ma réponse à la question.
Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin?
La lumière et le bruit. Le son, les gens, l'animation.
Avec un grand sourire d'Emilio Lopez Manchero. En plus, 3 sons que vous avez choisis, peut-être en réponse aux 3 questions,
oui,
du grand charivari. Alors, de quoi s'agit-il? On entend des rumeurs d'insectes et puis ce fameux cri.
Oui.
Et puis alors, l'harmonica, je crois.
Oui. Donc, commençons par le dernier. L'harmonica, en fait, il s'agit des 4 premières notes d'Ennio Morricone dans L'homme à l'harmonica, dans Once Upon a Time in the West. Et c'est un son que j'ai décontextualisé. En fait, j'ai pris ces quatre premières notes en enlevant toute la partie mélodique par la suite. Et je l'ai placé, je l'ai mis à partir de la tour du beffroi de Courtrai, le Texas de Flandre, de la Flandre. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on décontextualise quelque chose qui est très connu, qui est dans notre inconscient collectif, on entend autre chose. Et ça semblait vraiment être le grincement d'une grue ou une autre histoire, en tout cas, que celle qu'on connaît. Alors, le son des insectes, il s'agit de mouches tsetse. Et c'est un son que j'ai utilisé. Donc, je suis allé à l'Institut Tropical d'Anvers et j'ai enregistré tout l'élevage de mouches tsetse qu'on y fait, parce que c'est un des seuls endroits où on s'occupe de la maladie du sommeil, la trypanosomiase. Et je l'ai installé, je l'ai mis, alors là, pour le coup, au musée de Tervuren. J'avais enlevé les mouches tsetse qui étaient épinglées dans la vitrine, les morsitans ou les palpalis, je crois qu'elles s'appellent. Et comme s'ils avaient disparu, comme s'ils avaient ressuscité. Et donc, il y avait un son ambiant dans tout le musée avec ce son de mouches tsetse. Et un peu plus tard, c'était en pleine période de la vache folle, de la peste porcine, de la fièvre aphteuse, enfin, où toutes les frontières entre la Belgique et l'Allemagne étaient fermées. J'ai transporté 40 mouches tsetse, donc 40, la quarantaine, pour les installer dans un lieu d'exposition à la frontière allemande, à Borken, une petite ville, où de nouveau Jan Hout, le directeur du SMAC, organisait toute une exposition et autour de la question de la nature et de l'architecture. Et j'ai placé là, une sorte de vivarium avec des micros, j'ai amplifié le son de ces véritables mouches vivantes qui faisaient évidemment des bruits de guerre, d'avions qui passaient à travers tout l'espace. Et alors le cri de Tarzan, c'est autre chose. Donc c'est quelque part un répondant. Les mouches tsetse est un répondant au cri de Tarzan qui lui est un corps, un homme, un corps, dans la jungle et qui a une sorte de cri, un appel à travers cette nature, mais qui évidemment est un cri très policé, très construit, puisqu'il s'agit en fait d'un yodel, donc le chant tyrolien inversé, avec deux pointes de cri de hyène. Et j'avais en fait placé ça à Gand pour créer une sorte de bouleversement, dans le sens que quand on allait dans les bars, on entendait les gens dire « mais ils sont en train de construire une mosquée ici, qu'est-ce qui se passe ?» On prenait ça pour l'appel à la prière du Muezzin. Ou bien, et ça c'est ma lecture personnelle, sémantique, c'est à l'époque il y avait Jörg Haider, l'Autrichien d'extrême droite qui était là en train d'émettre ses idées au Parlement européen. Et donc pour moi, cette inversion du yodel convenait très bien justement à cette problématique, puisque à Gand, le Vlaamsblok était en train de monter en puissance. Et donc, quelque part, c'était une sorte de boutade.
Vous dites que vous êtes un faiseur de charivari, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez fait un coin comme ça, et puis il y avait le cri de Tarzan. Puis vous avez aussi placé un mégaphone près de la gare du Midi. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire bouger dans la ville ?
Elle est toujours un peu imparfaite, cette ville. En tout cas, Bruxelles. J'ai fait des choses ailleurs, mais à Bruxelles, c'est une source d'inspiration constante. Alors, pour le coup, la Passionaria, donc ça c'est le nom que j'ai donné au porte-voix, c'est l'avenue de Stalingrad, et l'avenue de Stalingrad qui était en fait l'arrivée des trains pour la gare du Midi qui se trouvait Place Roupe, est devenue une sorte d'artère parisienne, un petit peu un boulevard haussmannien, mais qui est tronquée par la jonction Nord-Midi. Qui s'est construite par la suite et qui vient bouleverser. Et donc, ça, c'est une avenue qui débouche sur une sorte de chaos urbain. Le dessin est un peu comme démantibulé avec la tour du Midi, des ruptures d'échelle, un trafic en tout genre, le train, les voitures, etc. Et donc, moi, j'étais préoccupé par prolonger en fait cette avenue. L'axe de l'avenue. Je ne savais pas comment. Et puis je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas avec tout simplement la voix humaine, même si elle vient buter sur les caténaires.
Vous avez des préoccupations qui sont un peu celles d'un architecte. Vous avez choisi le langage plastique.
Oui. Disons que j'ai une formation d'architecte à la base. Et donc, je lis la ville comme un architecte ou comme un urbaniste, et puis de là viennent toute une série d'idées qui ensuite terminent par être plastiques. Mais effectivement, c'est une lecture un peu particulière.
D'un architecte à l'autre, ici, un son de Yanis Xenakis aussi, un de vos choix. Yanis Xenakis qui est architecte, aussi.
Ingénieur architecte d'ailleurs, et qui pour moi a une importance capitale à un moment donné, parce que j'ai lu un peu sa biographie, et il part de sa Grèce natale, où il perd d'ailleurs un œil dans une manifestation, je crois, et il arrive à Paris, et il travaille chez Le Corbusier. Et donc, le son qu'on entend là, c'est le son qu'il a conçu, ou la musique, une des premières musiques qu'il a conçues, pour le pavillon Philips en 58.
Voilà, ça s'appelle Concret PH, oui. et c'est un bruit particulier, d'une matière particulière.
Oui. Charbon de bois, je crois, voilà. qui brûle. En tout cas, c'est une façon d'imaginer la musique qui m'intéresse un petit peu, ce qu'on peut appeler le bruit. Quelque part, pour moi, c'est autre chose que ça. C'est toujours des signes, c'est un coup de marteau comme celui d'une note de musique, et du même ordre que un son de charbon qui brûle. Et il y a quelque chose qui ouvre chez Xenakis, et qui ouvre aussi de manière mathématique, parce qu'il travaille avec des systèmes mathématiques aléatoires, au fond, ce qu'on appelait la mathématique moderne, celle que j'ai apprise à l'école.
Emilio Lopez Mencheru, tout est signe, dites-vous, et précisément, toute votre œuvre, quel que soit le langage plastique que vous utilisez, semble les prendre à contre-pied et les parodier.
Oui.
C'est pour susciter quoi chez celui qui vous regarde ou qui vous entend?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les glissements sémantiques. J'avais parlé justement du son des quatre premières notes d'Ennio Morricone, de l'homme à l'harmonica, et ça passe à autre chose. Ça passe tout, justement, pour le coup, de quelque chose qui serait de l'ordre des registres musicaux au son ambiant quotidien. Ce qui m'intéresse, justement, c'est de venir perturber la réalité et le quotidien. C'est pour ça, tous ces travaux que je fais dans la ville, enfin, ces interventions, j'appelle ça des interventions, d'ailleurs, comme par exemple le Checkpoint Charlie, la réplique exacte du Checkpoint Charlie à la porte de
Flandre. C'était pour le Festival Canal en 2010.
Le Festival Canal, oui. Où j'ai fait faire à des jeunes du quartier une réplique exacte du relevé que j'avais fait à Berlin de la petite cahute originale du Checkpoint Charlie, pour le placer porte de Flandre en pleine période de crise communautaire. Mais aussi parce que je passe sur ce pont entre la rue Antoine Dansart et la chaussée de Gand tous les jours, parce que j'ai mon atelier du côté de Molenbeek. Et ce choc social m'a toujours perturbé, il m'a intrigué. Le fait que les rives commencent à se gentrifier, le fait que d'un côté il y a des galeries d'art ou des magasins de stylisme, et de l'autre côté, il y a une culture qui m'est proche, parce que je suis espagnol, c'est pas trop loin du Maroc, et cette culture riffaine, d'ailleurs, hein, du riff, est extraordinaire. Enfin, de l'autre côté, elle est très présente, évidemment. Et donc, le checkpoint, quelque part, c'est pour marquer le coup, c'est-à-dire une frontière. Dans les villes, il y a toujours des frontières, il y a une épaisseur aux frontières. Et donc, le Checkpoint Charlie, qui est une frontière de ce qu'était l'ordre mondial il y a une trentaine d'années, tout à coup devient se réduit au niveau de l'échelle en une frontière urbaine. Et donc, voilà, c'est ce glissement qui m'intéresse.
Oui, pour revenir à l'exemple que vous citiez à propos de ces quatre notes de l'harmonica, décontextualisé, c'est-à-dire sorti du fait que c'est une musique de film, ça devenait un bruit presque concret, puisque les gens levaient la tête vers des tours, pensant entendre des bruits de grues. Donc, tout à coup, ça devenait autre chose que c'était.
Ça devient autre chose, tout à fait. Et quelque part, pour moi, c'est ma conception de l'art. C'est-à-dire que on prend des choses et on les replace ailleurs, et en les replaçant ailleurs, il y a quelque chose d'autre qui se provoque et redevient une nouvelle réalité. Il y a quelque chose un peu de comme Lavoisier, hein, tout se transforme.
Vous citiez Xenakis tout à l'heure qui avait migré de Grèce à Paris. Oui. Vous-même êtes d'origine espagnole et vous vous êtes fort implanté et impliqué aussi dans la lecture de la ville de Bruxelles. Pourquoi ? Comment ça s'est passé ?
Parce que ça a été mon choix. En fait, c'est-à-dire que quelque part, donc, je suis né en Belgique, en Flandre, à Mol. Mes parents sont venus en 58 ici. À 10 ans, on est reparti vivre à Vienne, en Autriche. J'y ai vécu 10 ans. Et donc, la Belgique, pour moi, était très loin déjà dans ma mémoire. À 20 ans, j'en avais plus qu'une idée assez vague. Mais j'avais gardé quelque chose d'assez précis, c'est-à-dire des visites dans un atelier d'un peintre. Un peintre hollandais, Piet Terra, qui était un peintre qui était proche du groupe Ozero avec Manzoni, qui était un peintre d'avant-garde. Et je voulais faire ce qu'il faisait, quelque part. Je voulais l'imiter. Et quelque part, pour moi, l'art se trouvait en Belgique. Donc, à un moment donné où il y a eu un choix, après mon baccalauréat, dans une école française, dans un lycée français, où je voulais étudier, je voulais étudier l'architecture et l'art et la peinture, particulièrement le tout. Et je me suis retrouvé à sillonner un peu l'Europe avec en train. Et puis j'ai failli, retourner, mais aller dans mon pays d'origine culturelle, parce que mes deux parents sont espagnols, donc à Madrid ou à Barcelone. Mais finalement, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, Bruxelles m'a plu. Et m'a plu parce qu'elle était internationale et parce qu'elle symbolise plusieurs couches identitaire. L'Europe, la Belgique elle-même, la Flandre ou la Wallonie, des communautés, des cultures que je connais l'une et l'autre, et aussi l'émigration. À l'époque, il y en a un peu moins, elle est moins présente aujourd'hui. Il y avait toute l'émigration espagnole, les Asturiens, autour de la gare du Midi, il y avait tous ces restaurants, le Primavera, on pouvait boire du cidre, manger de la paella. Enfin, il y avait quelque chose où j'aimais bien cette transplantation de ma propre culture ailleurs. De nouveau, cette histoire
de frontières
et de glissements, oui.
Et précisément, le fait d'être celui qui vient d'ailleurs et qui a un autre regard permet précisément peut-être d'avoir une lecture avec le recul qui permet la parodie ou qui permet l'interrogation identitaire, justement.
Oui. Je pense, par exemple, à un grand peintre belge, mais qui, dans le fond, est d'origine d'ailleurs, James Sansor. Il avait un peu cette attitude-là et je l'ai incarné pour une exposition. J'ai fait un « Trying to be James Sansor ». Où je me suis déguisé dans un autoportrait, où d'ailleurs lui-même se déguisait en Rubens, dit-on, avec un chapeau de femme, avec une plume et des fleurs. Et donc je l'ai parodié, je l'ai imité, je l'ai plutôt même, plus que parodié, je l'ai incarné. Et quelque part, en sort, était un personnage de ce genre-là, c'est-à-dire qu'il était décalé. Je m'y retrouve dans ce genre de personnage, oui.
Alors précisément, on passe là de l'identité politique, géographique, cartographique, quasi à l'identité personnelle. Vous évoquez cet exemple de « trying to be ». Ils sont démultipliés dans l'exposition à la centrale électrique, oui. Puisque vous avez essayé d'être, et d'incarner aussi le Balzac tel qu'il est vu par Rodin. Vous êtes en fait un artiste qui interroge les codes très fort.
Oui, je crois, oui. Disons que... je voulais être peintre, et je veux toujours être peintre, et d'ailleurs je peins. Mais la peinture est un art qui est un peu d'une autre époque quelque part, et doit toujours retrouver ses marques, puisque la technologie est venue, hein, la photographie, maintenant l'image digitale. Et donc, la question par exemple d'incarner un personnage, d'utiliser son corps comme moyen d'expression, est quelque chose qui contre tout cet ensemble de questions. Prenons par exemple Balzac. Balzac est un personnage protéiforme parce que il est l'écrivain, mais il a été sculpté par Rodin. Balzac, de son côté, a écrit et décrit sa société. C'est un des premiers à le faire d'une certaine façon. Et Rodin, 50 ans plus tard, fait de Balzac une idée d'artiste. Léonide, il y a la sculpture, le premier bronze qui est au Middelheim, à Anvers. Un bronze d'un personnage qui devient presque de romantique, une sorte de sculpture expressionniste, de l'idée de l'artiste. Et cette question-là m'intéresse. Parce que, au fond, quand tenté par l'art, tenté par la peinture, je me posais la question de ce que voulait dire ce métier, qu'il n'en est pas tout à fait un, et quand même, parce qu'il y a quand même toute une série de choses qu'on doit peut-être connaître, on passe quand même dans des écoles pour apprendre, certains n'en ont pas besoin, mais malgré tout, il y a toute une série de codes dans le monde de l'art qui doivent être malgré tout compris pour s'y attaquer. Cette question de l'identité, j'entendais toujours, oui, ça c'est un véritable artiste. Je voyais, et à chaque fois c'était un autre type de personnages. Et puis j'ai compris que non, qu'en fait l'intérêt c'était que chacun était très différent les uns des autres. Donc que voulait dire être un véritable artiste ? Et c'est peut-être ça qui m'a poussé à essayer de trouver la physionomie de ce que veut dire un artiste. Il peut passer d'être un terroriste, un révolutionnaire, un travesti, une femme, un homme, peu importe. Un criminel, c'est un drôle de personnage, en tout cas, puisqu'il est protéiforme.
Voilà, c'est pour ça que vous avez 40 fois Balzac.
Oui, ça c'est en fait toutes les... J'ai pris vraiment le catalogue raisonné de la construction, de la réalisation, de la genèse du chef-d'œuvre, ce qu'on appelle le Balzac monumental. Et c'est assez extraordinaire, parce que d'ailleurs, Rodin lui-même, pour essayer de trouver quelque chose, qu'il n'avait qu'une chose de Balzac, une photo, le fameux Balzac à la bretelle, ou qu'on appelle aussi le Napoléon des lettres, parce qu'il pose sa main sur son cœur. Et en fait, Balzac était un spiritiste, et il avait peur de la photographie, qui est née à peu près au même moment où lui est en pleine action, en pleine création. Et il avait peur que des spectres lui soient enlevés. Donc il n'y a qu'une seule photo de lui, c'est la seule trace, et une peinture, ou une gravure. Et... Rodin ne s'y retrouvait pas avec cette image. Il a essayé toute une série de tentatives à partir de ce Balzac à la bretelle, mais il ne trouvait pas son compte. Et donc, il a cherché un sosie. Et il en a cherché un à Tours, et il a trouvé le conducteur de Tours. Un bonhomme qui était massif, qui avait peut-être la physionomie de près. Il y avait quelque chose un peu, c'était quand même la fin du 19e siècle, des histoires de physionomie. Et donc, il y voyait quelque chose presque de l'ordre du ethnique. Alors que c'était complètement faux, Balzac n'était pas de Tours. Mais il est né à Tours, ou il a vécu à Tours, je ne sais plus. Résultat, il y a ce personnage qui a servi de modèle pour le Balzac monumental. Donc, il y a déjà là toute une série de glissements pour arriver à l'idée qu'on se fait de Balzac.
Yolle, hombre, voilà. Elle est en haut. S'ennuie le dimanche quand il s'agit de courir pour nous. Un peu de sable, du soleil et des planches, un peu de sang pour faire un peu de boue. Mais c'est l'heure où les épiciers se prennent pour Don Juan, c'est l'heure où les Anglaises se prennent pour Monterland. Qui nous dira à quoi ça pense, un taureau qui tourne et danse et s'aperçoit soudain qu'il est tout nu. Oh. Qui nous dira à quoi ça rêve, un taureau dont l'œil se lève et qui découvre les cornes des cocus. Olé ! Les taureaux s'ennuie le dimanche quand il s'agit de souffrir pour nous. Mais voici les picadors et la foule se venge. Voici les toreros, la foule est à genoux. Et c'est l'heure où les épiciers se se prennent pour Garcia Lorca. C'est l'heure où les Anglaises se prennent pour la Carmencita. Les taureaux s'ennuient le dimanche quand il s'agit de mourir pour nous. Mais l'épée va plonger et la foule se penche. Mais l'épée a plongé et la foule est debout. C'est l'instant de triomphe où les épiciers se prennent pour Néron. C'est l'instant de triomphe où les Anglaises se prennent pour Wellington. Ah, est-ce qu'en tombant à terre, les taureaux rêvent d'un enfer où brûleraient hommes et toreros défunts? Rien à l'heure du trépas ne nous pardonnerait-il pas? En pensant à Carthage, Waterloo et Verdun, Verdun.
Que veut dire être soi ou vouloir être quelqu'un d'autre? Le ton de la parodie, ici la voix de Jacques Brel, bien sûr, c'est le choix musical, un des choix musicaux ce matin de notre invité Emilio Lopez Menchero. Alors les taureaux s'ennuient le dimanche, allusion aussi à une de vos performances et puis qui a été déclinée aussi en série, Torero Torpedo. Alors racontez-nous cette aventure.
Alors, je me souviens d'une visite au musée Picasso. Et j'y vois tout à coup Tête de taureau, c'est une pièce qu'il a fait je crois en 42, donc une selle et un guidon qui fait une tête de taureau. J'ai dit c'est pas possible, ce bonhomme, il est toujours avant moi. Ça a dû se dire, beaucoup d'artistes ont dû se dire la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était exactement mon hybridité, celle d'être belge et espagnol, un cycliste comme Eddy Merckx ou un torero comme Manolete. Il y avait quelque chose dans cette pièce tellement simple qui racontait toute mon histoire. Et donc, des années plus tard, j'ai l'idée, en fait, de faire le contraire, de créer une sorte de personnage baroque à partir de cette même idée. Donc, j'ai pris une bicyclette de la Poste, noire, simple, et j'ai remplacé le guidon, j'y ai fait des cornes, hein, des cornes de taureau. Je me suis habillé avec l'habit des Lumières. J'ai mis à l'arrière un cassettophone avec des passodobles, et les passodobles les plus connus. Et à l'époque, j'avais un seul problème en tête, c'était de rentrer dans le musée. Parce que, au fond, chaque fois qu'on m'invitait, c'était pour faire des choses à l'extérieur, parce que j'étais assez habile pour faire des interventions, pour perturber le quotidien, la ville. Et moi, j'avais envie, quelque part, de quelque chose de plus classique. Donc,
un charivari au musée, par exemple.
Un charivari au musée, exactement. Et donc, je suis rentré, alors qu'il ne s'attendait pas à ça. Il m'avait invité, c'était le SMAC, le musée de Gand. Il m'avait invité à faire la performance dans le parc. Et je voyais que la performance dans le parc était très, très drôle, mais pas très intéressante. Et à un moment donné, ni une ni deux, j'ai fait demi-tour et je suis rentré dans le musée. Et s'y attendait pas. Et avec la musique à plein volume. Et je suis rentré, et chaque fois qu'il y avait quelque chose de rouge, un anorak, un foulard ou un tableau, je me postais devant et j'étais prêt à rentrer dedans. Et donc ça perturbait évidemment énormément le musée. Puis plus tard, cette même performance s'est déclinée notamment dans les foires d'art à Paris, à la FIAC. Ou ailleurs, même à la foire de, je ne sais plus, à la foire d'Amsterdam, je crois. Et ensuite, dans le monde du cyclisme, parce que j'avais un coach. Un des commissaires du musée m'avait aidé. C'était un ancien cycliste professionnel, mais n'ayant pas gagné assez dans sa vie professionnelle de cycliste, il a terminé comme curateur d'art contemporain. Et donc il m'aidait, il m'a dit « Mais écoute, il y a une course cycliste dans les Mouren, c'est à la côte, à Dunkerque. » Donc là, j'ai participé à une course contre la montre, je suis arrivé avant-dernier. Et ensuite, il m'a dit « Mais on peut aller encore plus loin, il y a le Tour de France qui va passer par Gand, est-ce que tu ne ferais pas quelques étapes du Tour de France ?» Et donc j'en ai fait une, la pire, la plus importante, le Col d'Aubisque, qui est une côte extraordinaire, où il y a toujours des faux plats. ça va jusqu'à du 12%, ça varie comme ça. Je l'ai faite en 5 heures. C'était un mois avant que le Tour de France n'arrive d'ailleurs là-bas. Eux le font plus ou moins un quart d'heure, une demi-heure, les professionnels. Et d'ailleurs, donc j'arrive complètement vidé en haut, mais je l'ai faite. Je l'ai faite, c'est donc une véritable performance sportive. Et d'ailleurs, un mois plus tard, c'est Contador qui gagne, donc un Espagnol, mais par un jeu de passe-passe, parce que Rasmussen, celui qui détenait le maillot jaune, avait triché. Et son sponsor le lâchait. Et donc, du coup, c'est le second qui prenait la relève, enfin, qui prenait le maillot jaune, Contador, son premier Tour de France.
Vous pouvez aussi investir en termes de performance le monde du football ou du tennis. Il y a beaucoup de bons sportifs de haut niveau espagnol.
Espagnol aussi, oui. Mais je vais voir, je vais m'entraîner.
Alors, une interrogation des grands mythes. Le mythe de l'artiste, vous l'avez dit. Le mythe du héros qui est toujours un peu lui aussi... bancal.
Oui.
D'où vous viennent ces associations ou ces lectures, parfois à plusieurs degrés? On pense par exemple à Duchamp qui lui-même se déguise en Rose, c'est la vie, qui n'existe elle-même pas, mais que vous-même, vous vous représentez en Rose, c'est la vie, représentée
en Rose, c'est la vie,
en Rose, c'est la vie, etc. Oui. Donc il y a une espèce de lecture multiple, de mise en abîme à l'infini.
Oui, parce que je crois que c'est en fait le problème de l'artiste, c'est qu'il se cherche. Il se cherche tous les matins, enfin, il se cherche, il se construit quelque chose de fictionnel, une identité fictionnelle. C'est pour ça que certains prennent d'ailleurs un autre nom. Y a quelque chose de cet ordre-là. Et il le fait pour peut-être se situer, se placer à l'intérieur de la société. Donc, c'est une sorte de mise en abîme de ce même questionnement. Que veut dire être artiste? Mais que veut dire être peintre? Oui, alors... Pendant tout un temps, je croyais que je peignais, mais j'avais lâché le pinceau, par exemple. Toutes les années 90 étaient des années plutôt qu'on appelait des années post-conceptuelles. Il y avait une sorte de diktat de l'artiste qui se mettait en retrait par rapport à la question du faire, F-A-I-R-E, de la fabrication, de l'artisanat, et qui posait plutôt des questions de l'ordre d'ordre intellectuel, mental, c'est-à-dire que c'est avant de faire quelque chose qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Mais en fait, tout ça est très ambigu et très paradoxal. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas par hasard qu'on va vers telle ou telle chose et on a envie de faire. Et donc, l'artiste est toujours en quête. Quand il a mis un jalon, le jour d'après, il a envie justement de détruire ce jalon et de faire justement le contraire. En tout cas, ça, c'est mon cas.
Qui est ce questionnement, Emilio López-Menchero, sur l'identité et sur les grands mythes de manière générale. Et puis alors, il y a une relecture très profonde, celle-là, de l'histoire, de toute l'histoire de l'art, puisque notamment dans l'exposition qui est présentée sous forme de rétrospective, il faut le dire, à la Centrale Électrique, il y a aussi cette grande vidéo dans laquelle on vous voit juste muni d'un bic et d'un papier, dessiner des détails, des grands tableaux de maître, et puis de laisser joncher le sol par ces papiers, ce qui permet à ceux aussi qui regardent non seulement les œuvres, de regarder les œuvres telles qu'elles sont vues à travers votre regard.
Oui, c'était donc dans la salle Rubens au Musée Royal des Beaux-Arts, une performance qui a un très long titre. Je ne me souviens plus du titre, mais c'est un titre qui a à voir avec mon premier choc avec les grands maîtres. Je voyageais en Italie avec mes parents, je crois que j'avais 14-15 ans, et j'allais voir tous les musées. J'étais à un moment donné complètement dans une sorte d'ébahissement, complètement illimité, où je me projetais dans chaque œuvre que je voyais, chaque tableau de Raphaël, de Michel-Ange, les sculptures de Michel-Ange, ou même l'architecture de Saint-Pierre. J'étais tout le temps dans une sorte d'ébahissement. Et à un moment donné, je demande à mon père de m'acheter des tubes de peinture à l'huile. Et donc, je dis, je ne sors plus de la chambre d'hôtel. Je veux absolument faire un chef-d'œuvre. Et donc, donc j'avais un ego surdimensionné, évidemment. Donc, je commence à faire le portrait de ma plus jeune sœur. Et je réussis quelque chose un peu valable. Ça ressemblait un petit peu, enfin, avec très peu de technique. Et il avait aussi le petit pot de vernis sur le côté. Et donc, j'ai verni un peu trop vite et c'est devenu une véritable boue. Et là, je me suis dit, ça commence. Enfin, ça commence. La catastrophe commence. Plus tard, on m'invite à faire quelque chose, une performance. C'était dans le festival Trouble que Léal de Scarbeck organisait. Et je propose une chose très simple, de devenir plutôt tout simplement un gardien de musée. Donc, je demande l'uniforme du gardien. Et je suis dans une sorte de logique de formatage. Donc, si je poste cette place-là dans le musée, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, bon, ben, je vais prendre des bics. On peut toujours avoir un bic, quatre couleurs, et des feuilles d'INA4. Donc, des feuilles formatées, celles que nous avons tous. Donc, des matériaux très conventionnels. Conventionnels dans le sens des normes. Et je reproduis effectivement les détails des tableaux de Rubens. Et puis une fois fini, je les jette par terre. Et évidemment, bon, quand les visiteurs arrivaient, ils disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ça? La Belgique est un peu sale. » Mais au fur et à mesure, ils commençaient plutôt à commencer par pointer le regard vers le sol et puis d'essayer de trouver ce que ça voulait dire dans les tableaux. Et donc j'ai inversé complètement la lecture des œuvres.
C'est une manière de faire voir aussi, de donner à voir autre chose.
Et aussi de mettre en abîme la question de la valeur. Puisque il y a le chef-d'œuvre qui est unique, qui est original, qui est un mot d'ordre juridique, ou rare, donc économique. Là, tout à coup, il y a quelque chose qui se jette par terre, sur lequel les gens marchent. Et il y a une sorte de mise en abîme de cette question de la valeur. Peut-être de façon iconoclaste. Qu'est-ce qui a plus de valeur? Quelque chose qui a de l'histoire ou quelque chose qui n'en a pas, sur lequel on marche? Voilà.
Finalement, qu'est-ce qui a plus de valeur? Est-ce que c'est le papier sur lequel on marche ou c'est le dessin qui est sur ce papier et qui permet à ceux qui le regardent de regarder autrement la peinture d'histoire?
Je crois que c'est le regard des gens.
Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? Et je ne sais plus suivre quand même. Voilà, merci monsieur. My name is Soe Kotanga. Cette terre qui m'obsède jour et nuit, cette terre n'est pas née d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour, cette terre me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur.
Canta, nemigo, canta, anda cantar esta canção.
Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être celle qui a... Je sais plus.
Allons les rouges.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant.
Ouvre que la caradio, la humilorte et pedo, con cucaradio ficati, comme un perro. C'est fini.
Voilà, c'est fini. Un grand charivari qui, du coup, n'est pas du tout conventionnel ce matin avec vous, Emilio Lopez-Menchero. Voilà, une autre de vos performances, c'était en 2002, à Saint-Gilles, des voix des gens de la rue.
Oui, c'était en fait une intervention. Donc, l'exposition s'appelait Mobile. Denis Guilaine, le commissaire, avait imaginé cette exposition où il a invité des artistes à intervenir dans Saint-Gilles. Et ce que j'ai fait, tout simplement, c'est d'aller de boutique en boutique, de magasin, et de demander avec un micro à la main de me siffler un air. Et tout ce qui était récolté était ensuite émis dans les petits haut-parleurs qu'il y a des commerçants, où normalement on entend des chansons de Noël. Eh bien, tout ça apparaissait. Et donc, les commerçants, et d'ailleurs parfois des passants, sortaient de leur magasin pour s'écouter. Donc, c'était une sorte de jeu d'inversion entre l'intime, hein, le privé et le public.
Dans vos interventions, le propre même d'une intervention, c'est de donner à voir, faire bouger. Mmh. C'est important pour vous, ces interactions avec le public. C'est éminemment politique, évidemment.
Oui,
comme
tout à fait. C'est quelque part ce que je crois que l'artiste, finalement, c'est une sorte de joker dans le jeu de cartes. Et de permettre justement des choses qui ne sont pas permises normalement. Il y a toute une série de règles, de comportements dans une ville, et aussi tout un système commercial qui fait que, ou un système politique qui fait que finalement l'habitant n'est pas très maître de son environnement. Et quelque part, ce que j'essaie de faire, c'est de créer des ponts de telle manière qu'il y a des choses qui semblent être totalement inédites alors qu'elles sont très simples à faire finalement.
Et c'est ce regard que vous portez, en fait, sur l'environnement est très poétique. Il n'est jamais à dénoncer, il est plutôt doux et joyeux.
Oui, pas toujours. Mais ça arrive. Par exemple, le Checkpoint Charlie était plus frontal, hein, puisque même le Checkpoint a finalement terminé par être brûlé. Donc il y a quand même parfois des sortes de frictions.
Enfin, vous-même êtes déguisé en costume de l'armée, on sent bien aussi qu'il y a,
oui,
qu'il y a on se croirait à un tournage de cinéma.
On ne peut pas
complètement y
non.
croire quand même.
Je crois qu'effectivement, ce qui est important pour moi, c'est la fiction. Et que quelque part, il y a toujours là quelque chose qui se donne au public et qui permet qu'il puisse en approprier la chose. Par exemple, pour raconter encore une autre intervention que j'ai faite à Bruxelles, c'était à la place Flaget, où dans le grand chantier qu'il y avait eu dans la place de le bassin d'orage, lorsqu'ils ont enlevé les palissades, tout à coup ils ont construit une sorte de route, une sorte de nationale 4 ou 7, je ne sais plus comment on l'appelle, en tout cas une sorte de route normale comme ça, mais qui n'avait rien à voir asphalté au milieu. Et j'ai simplement créé une sorte de dessin de fausse route, un peu comme un Far West, où il y avait des façades de maisonnettes. Et qui venait encadrer cette route comme une fiction. Et le public, les gens se sont appropriés la chose pour justement lacérer le dessin de ces petites maisonnettes qui étaient comme ça en série, comme des sortes de façades américaines, comme celle de Buster Keaton, la façade qui lui tombe dessus. Et ils ont commencé à graffiter et à écrire tout ce qu'ils pensaient de ce chantier. Donc voilà, oui, effectivement, c'est faire des interventions qui permettent au public de tout à coup s'animer d'une autre façon et au moins prendre possession de l'œuvre.
Emilio Lopez-Menchero, il y a toutes vos interventions urbaines dont nous venons de parler. Et puis, vous avez évoqué cette difficulté que vous avez eue quand vous étiez plus jeune de, au fond, prendre votre place dans l'histoire de l'art, de vous inscrire dans cette histoire. Vous êtes peintre vous-même. Comment articulez-vous cette double dimension, au fond, prendre du détour,
oui,
par glissement, comme vous disiez,
oui,
et puis véritablement avoir une œuvre de peintre.
C'est effectivement quelque chose de périlleux. Quelque part par la dérision, d'une part. Je crois que c'est un des premiers outils. Et puis de prendre des sujets, de malgré tout prendre la chose à contre-pied. Moi, au début, je voulais être un peintre abstrait. C'était le grand débat dans les années 60, quand j'étais gamin et que j'allais dans l'atelier de ce peintre que j'aimais beaucoup. C'était cette question de la figuration ou de la non-figuration. Je crois qu'aujourd'hui, on est ailleurs. Et c'est plutôt la question du contenu qui m'importe et qui me permet de glisser d'un support à un autre support. Par exemple, on voit dans l'exposition une sorte de dédoublement de la photographie où j'incarne Balzac à la bretelle et une peinture qui, elle, est une sorte d'effacement du visage où je n'y laisse plus que, donc on dirait un tableau quasi abstrait.
La chevelure.
Mais il y a juste la chevelure et les moustaches et le cou épais de l'écrivain, mais fait de 3-4 coups de brosse et qui d'ailleurs désigne quelque chose qui n'est pas. C'est-à-dire que ça désigne un effacement alors que c'est plutôt une omission. C'est-à-dire que les yeux ne sont pas peints, ni le nez, il y a juste la bouche et la moustache. Et voilà, les éléments qui font dire, voilà, ça c'est Balzac. Et donc, d'ailleurs, le titre du tableau, c'est « In Balzac's Mind ». Donc dans l'esprit de Balzac, et je l'écris, je donne le titre en anglais d'ailleurs pour créer une sorte de recul et de position un peu d'observateur même par rapport à la question de la peinture.
Je demande, dans toutes ces incarnations que vous faites, les titres que vous avez donnés, c'est Trying to be. Donc il y a la question de l'être, mais c'est quelque chose qu'on essaye d'être et qu'on n'est pas complètement.
Donc il y a, et c'est ça qui nous fait bouger. Donc, je n'ai pas une attitude de, comme certains artistes pourraient l'avoir, où ils émettent un slogan ou une sorte de vérité ou de boutade pour s'affirmer. J'ai plutôt une tendance à dire que j'essaye de faire cette affirmation, mais que ce n'est qu'une tentative finalement.
Emilio Lopez Menchero, je vous propose un petit retour en arrière. C'était il y a 25 ans, vous collaboriez avec un autre artiste qui s'appelle Patrick Gunn, c'était Ré plus 3. Et je vous propose d'écouter Patrick Gunn, qui parle lui aussi de Joker, justement.
Je ne me sépare jamais de ma carte de Joker. À savoir, il faut toujours avoir un sauf-conduit dans la vie, pour ne pas répondre à une question, pour éviter, pour esquiver, voilà. Et donc j'avais prévu, pour esquiver l'une de vos questions, c'est de sortir mon joker. Il se fait que ça ne s'est pas fait et que je vous ai proposé de choisir une carte, parce que j'ai 5 cartes de couleur, mais c'est un jeu de dupes parce que les 5 cartes ont la même valeur et ce sont 5 jokers. Et donc, je vous ai photographié avec le Joker.
Ça vous amuse, ça, le Besmanchero. Voilà Patrick Gunns au micro de Fabrice Cada. Ré plus 3, c'était vous-même, Patrick Gunns, et puis Patrick Guaffi, voilà. C'était quoi cette association d'artistes au départ? Vous avez vu qu'il emploie la même sémantique que la vôtre.
Oui,
l'idée
tout à
de
fait.
L'artiste comme Joker.
Oui, ça, c'est incroyable. Non, c'est-à-dire que... On cherchait un atelier et on a trouvé un atelier près de la place Simonis et qui avait 3 étages. Et donc, on avait décidé, on venait de sortir de nos écoles respectives et de faire une exposition. Et donc, on occupait chacun un étage et le rez-de-chaussée était un peu le melting pot de nos 3 visions de l'art. Effectivement, ça m'amuse fort, oui.
Vous avez évoqué vos passages par l'école. Qu'est-ce que les écoles d'art vous ont le plus appris, à vous, Emilio Lopez Menchero?
À se positionner, certainement, par rapport aux autres, à connaître peut-être l'esprit ambiant et quelque part, les grandes questions qui se posent à ce moment-là. J'ai eu la chance d'être dans l'atelier de Jean Glibert. Jean Glibert, qui est un artiste qui travaille dans la ville, qui a un travail qu'on peut définir de minimaliste ou de conceptuel, qui travaille avec la couleur et qui intervient dans l'architecture. Et pour moi, ça a été une véritable révélation. J'ai eu un autre père, c'est un peintre, c'est un petit peu avant, j'allais dans une académie du soir à Etterbeek, Maurice Weckart, un situationniste. Et c'est justement... son positionnement par rapport à la question politique et urbaine qui m'a fasciné, dans le sens qu'elle pouvait aussi se traduire en peinture.
Sur l'idée de ce glissement, de ce déplacement des questions, d'un regard ou d'une technique visuelle à une autre.
À une autre, oui. C'est peut-être quelque chose qui m'est propre, parce que justement, je suis espagnol, j'ai appris plusieurs langues au fur et à mesure, et je dois toujours glisser. Et quelque part, lorsqu'on glisse d'une langue à une autre, on devient un petit peu un autre, mais on est toujours soi-même. C'est très bizarre d'ailleurs, parce qu'on doit... On a une autre chanson en bouche, finalement.
Alors, parlant d'autres, justement, une rétrospective, vous êtes donc consacrée, on l'a dit, à la Centrale actuellement, et vous avez choisi d'accueillir, justement, une vraie autre, pour le coup, qui est une compatriote, par ailleurs, Esther Ferrer. Vous avez libre choix. Pourquoi avoir choisi ce compagnonnage dans le musée ?
Je l'avais rencontrée à deux reprises, justement, dans la période où on me demandait de faire un choix, notamment à Paris, dans une exposition d'artistes espagnols, et à Berne, dans un festival de performance. Et c'est un personnage très particulier. C'est une pionnière de la performance espagnole. Et elle a une attitude très politique concernant la question du corps. Elle se montre nue. Elle a une idée très précise de ce que veut dire la performance, c'est-à-dire un acte qui se fait au moment même et qui peut prendre toute une série de formes différentes. Ce n'est pas quelque chose qui se répète, mais qui se vit au moment même. Et elle a toute une série de revendications par rapport à son corps, en tant que femme d'ailleurs. Donc pour moi, qui travaille, qui utilise le corps aussi dans le cadre des Trying to Be, je trouvais que c'était quelqu'un qui était juste... pour produire un dialogue, disons. Oui, c'est cette idée-là qui m'a été la plus importante, cette question de poser la question du corps.
Alors, elle interroge la question du corps, elle interroge aussi l'histoire de son pays, l'histoire de l'Espagne à travers les conquêtes, notamment l'esprit de la conquête.
Oui, la pièce qu'elle montre ici, justement, parle de ça, de tous les crimes que l'Espagne a fait de 1492 à 1992 au nom d'une identité, une identité religieuse, une identité de langue, le castillan, et de territoire.
Et de religion.
Et de religion, surtout, oui, effectivement. Donc c'est toute la série de choses qui ne se disent pas dans les cours d'histoire. Hein, et donc, quelque part, elle a quelque chose de subversif. Et donc, c'est un cercueil. Et vous allez voir, c'est un cercueil qui prend la forme d'une araignée.
Je n'ai pas vu l'araignée.
Eh bien, il y a le corps, le cercueil, les câbles, les pattes. Et puis, sur cette araignée, au lieu d'une croix, il y a une épée. Et donc, c'est cette idée conquérante et expansive de l'identité espagnole qui est représentée. Et en arrière-fond, il y a le drapeau monarchique, donc le drapeau actuel, qui continue à représenter finalement cette même idée d'une nation.
Il y a une installation sonore aussi qui est très très importante dans cette œuvre que vous évoquez,
oui,
justement.
On entend en fait une énumération de crimes de 1492 à 1992, de crimes faits au nom de l'Espagne, en Amérique du Sud, dans les Philippines, et puis jusqu'à l'époque de la guerre civile et maintenant.
Que représente une rétrospective, Emilio López Menchero, par rapport à un travail qui est évidemment toujours en cours, mais...
Oui. C'est-à-dire que j'ai un petit peu déjoué la question, parce qu'effectivement, je trouve que c'est un petit peu tôt pour faire une rétrospective. Mais j'avais quelque chose d'abord à émettre, c'est-à-dire de créer des relations entre toute cette production qui est assez protéiforme. Et pour moi, finalement, la pièce principale de cette exposition, c'est la relation qui s'effectue entre les différentes pièces du passé.
Emilio López Menchero et Esther Ferrer, une rétrospective à découvrir à la Centrale encore jusqu'au 29 mars. Il est un rituel dans cette émission, Emilio López Menchero, lorsque nous avons au terme de cette rencontre, vous poser la question de savoir si vous avez une maxime, mais avant cela, est-ce que vous avez un choix musical pour nous quitter?
Oui, Concha Boica, qui vient de faire un concert justement au Palais des Beaux-Arts et qui a été un véritable coup de cœur pour moi.
Et avez-vous une maxime? Ou aimeriez-vous en avoir une?
Alors,
ou une multiple?
Le chemin se fait en marchant, c'est une des phrases de Machado, c'est ça. c'est une phrase qui est universelle et qui, c'est vraiment ce que fait l'artiste, c'est-à-dire qu'il ouvre son chemin au fur et à mesure qu'il marche.
Merci beaucoup.
Este amor apasionado que anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento, oh, oh, de volver. Tú tenías mucha razón. Me hace daño el corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Yo sé perder. Quiero volver, volver, llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo.